Chapitre 39. Déicide. Comme tous les habitants d'Anubis City, population actuelle 56521 habitants, Monsieur Théodore Kahn fut réveillé peu après minuit par le système d'alerte générale. « Pour l'amour de Deus, j'espère que ce n'est pas encore un tremblement de glace », se dit-il aussitôt. Il se rua à la fenêtre en hurlant si fort « ouverture » que la chambre ne le comprit pas et qu'il dut répéter son ordre d'une voix normale. La lumière de Lucifer aurait dû entrer à flot, dessinée sur le sol des ombres qui fascinaient les visiteurs venus de la Terre parce qu'elle ne bougeait pas d'un millimètre, quel que fût le temps que l'on passait à les observer. Cette lumière immuable n'était plus là. En regardant à travers l'immense dôme transparent d'Anubis, Kahn découvrit un ciel que Ganymède n'avait plus connu depuis un millier d'années. Un ciel à nouveau constellé d'étoiles. Lucifer avait disparu. Alors qu'il explorait du regard les constellations oubliées, Kahn remarqua quelque chose d'encore plus terrifiant. À l'endroit où aurait dû se trouver Lucifer, un petit disque d'un noir absolu éclipsait les étoiles nouvelles. Il n'y a qu'une seule explication, se dit Kahn, hébété. Lucifer a été englouti par un trou noir. Et ce sera peut-être bientôt notre tour. Depuis le balcon de l'hôtel Ganymède, Poole observait le même spectacle, mais les émotions qu'il éprouvait étaient plus complexes. Bien avant le déclenchement de l'alerte générale, son comsec l'avait réveillé avec un message de Hallmann. « Ça commence. Nous avons infecté le monolithe, mais un ou plusieurs virus ont pénétré dans nos propres circuits. Nous ne savons pas si nous serons en mesure d'utiliser la tablette de mémoire que tu nous as donnée. Si nous réussissons, rendez-vous à Tienville. » Suivirent alors ces mots surprenants et émouvants, dont l'exacte résonance émotionnelle allait faire l'objet de débats pendant des générations. « Si nous ne parvenons pas à télécharger, souvenez-vous de nous. » De la chambre derrière lui parvenait la voix du maire qui faisait de son mieux pour rassurer les citoyens d'Anubis, à présent tous réveillés. Bien qu'il eût commencé sa déclaration par la coutumière et effrayante assertion officielle, il est inutile de s'inquiéter, le maire avait effectivement de bonnes nouvelles à annoncer.
« Nous ne savons pas ce qui se passe, mais Lucifer continue de briller normalement. Je répète, Lucifer continue de briller. Nous venons de recevoir des nouvelles de la navette interorbitale Alcyone, qui a quitté Callisto il y a une heure. Voici les images qu'elle nous... »
Poole se rua à l'intérieur et aperçut sur l'écran vidéo l'image rassurante de Lucifer.
« Voilà ce qui s'est passé, » reprit le maire. « Quelque chose a causé une éclipse temporaire. Nous allons zoomer pour l'observer. Observatoire de Callisto, une image plus proche, s'il vous plaît. »
« Comment sait-il qu'elle est temporaire ?» songeait Poole en attendant que l'image apparaisse sur l'écran. Lucifer disparut pour être remplacé par un champ d'étoiles. Au même moment, la voix du maire décrut et fut remplacée par une autre voix. Un télescope de 2 mètres de diamètre, mais nous obtiendrions le même résultat avec n'importe quel autre instrument. C'est un disque d'un matériau parfaitement noir, de plus de 10 000 kilomètres de diamètre, si fin qu'on ne distingue aucune épaisseur. Et il est placé exactement, on pourrait dire délibérément, de façon à empêcher l'éclairement de Ganymède. Nous allons zoomer dessus pour voir si on peut apercevoir des détails, quoique j'en doute. Depuis Callisto, le disque fut réduit à un ovale 2 fois plus long que large. Il grossit jusqu'à occuper totalement l'écran. Ensuite, on aurait su dire si l'image avait été zoomée, car on ne distinguait aucune structure apparente. Comme je le pensais, il n'y a rien à voir. Nous allons à présent balayer la bordure de cette chose. Il n'y eut aucune impression de mouvement, jusqu'à ce qu'apparaisse soudain un champ d'étoiles délimité par le bord arrondi du disque. C'était comme si l'on regardait au-delà de l'horizon d'une planète parfaitement lisse et dépourvue d'atmosphère. Non, elle n'était pas parfaitement lisse. « C'est intéressant », commenta l'astronome qui avait adopté jusque-là un ton tout à fait détaché, comme s'il s'agissait d'un phénomène quotidien. Le bord paraît découpé, mais de façon très régulière, comme une lame de scie.
Une scie circulaire, grogne la poule. Va-t-elle nous découper ? Allons, ne sois pas ridicule.
Nous ne pouvons pas nous approcher davantage. La diffraction abîmerait l'image. Nous allons la traiter et obtenir ainsi une meilleure vue de détail.
L'agrandissement était tel à présent que toute trace de la circularité du disque avait disparu. Sur l'écran se présentait désormais une bande noire dont les bords étaient découpés en dents de scie par des triangles parfaitement identiques. Pourtant, une idée germait petit à petit dans l'esprit de Poole. Comme chacun sur Ganymède, il observait les étoiles infiniment plus distantes qui apparaissaient dans les creux. Et comme d'autres sans doute avant lui, il en tira des conclusions. Si l'on veut obtenir un cercle à partir de blocs rectangulaires, y compris si leurs proportions sont 1, 4, 9, il est impossible d'avoir des bords lisses. Bien sûr, on peut approcher le plus possible du cercle parfait en utilisant des blocs de plus en plus petits, mais pourquoi se donner tant de mal si l'on cherche seulement à réaliser un écran suffisamment grand pour éclipser un soleil ? Le maire avait raison, l'éclipse était temporaire. Mais sa fin se déroula de façon exactement contraire à une éclipse de soleil. D'abord, la lumière perça au centre et non au bord. Des lignes irrégulières irradièrent à partir d'un point minuscule et éblouissant. Puis, grâce au grossissement, on distingua la structure du disque. Il était composé de millions de rectangles identiques, peut-être de la dimension de la Grande Muraille d'Europe. Mais à présent, ces rectangles se disloquaient en un gigantesque puzzle. La lumière revenait lentement sur Ganymède au fur et à mesure que le disque se fragmentait, laissant filtrer les rayons de Lucifer. Puis les composants commencèrent à s'évaporer, comme s'ils avaient besoin du contact les uns des autres pour assurer leur réalité. Bien que, pour les spectateurs angoissés d'Anubis City, l'événement semblât durer des heures, il se déroula en fait en moins d'un quart d'heure. Et il fallut attendre que tout fût terminé pour songer à regarder Europe. La Grande Muraille avait disparu. Près d'une heure plus tard, on apprit que depuis la Terre, Mars et la Lune, le Soleil lui-même avait semblé clignoter pendant quelques secondes avant de retrouver sa luminosité habituelle. Ces éclipses hautement sélectives étaient visiblement destinées à l'espèce humaine, car l'on ne remarqua rien de semblable ailleurs dans le système solaire. En raison de l'excitation générale, il fallut attendre un peu plus longtemps pour que le monde se rende compte qu'AMT0 et AMT1 avaient tous deux disparu, ne laissant que leurs empreintes vieilles de 4 millions d'années dans le cratère de Tycho et en Afrique. C'était la première fois que les Européens rencontraient des humains, mais ils ne semblaient ni inquiets ni surpris par les gigantesques créatures qui se déplaçaient au milieu d'eux à une vitesse si considérable. Bien sûr, il n'était guère facile d'interpréter les émotions de choses ressemblant à de petits buissons sans feuilles, apparemment dépourvus d'organes d'essence et de moyens de communication. Mais s'ils avaient été effrayés par l'arrivée d'Alcyone et la sortie de ses passagers, ils seraient certainement restés terrés dans leurs igloos. Un peu encombré par sa combinaison de protection et par le cuivre brillant qu'il apportait en guise de cadeau, Frank Poole s'avança dans les faubourgs désordonnés de Tienneville, se demandant ce que les Européens pensaient des récents événements. Pour eux, il n'y avait pas eu d'éclipse de Lucifer, mais la disparition de la Grande Muraille les avait sûrement choqués. Elle se dressait là depuis des temps immémoriaux, faisant fonction de bouclier et probablement de bien autre chose encore. Et puis, brusquement, elle avait disparu. Il découvrit la tablette de Pétaoctet au milieu d'un groupe d'Europe qui manifestait les premiers signes de curiosité qu'il eût jamais observés. Il se demanda alors si Allman ne leur avait pas demandé de veiller sur ce cadeau venu de l'espace jusqu'à ce qu'ils viennent la récupérer. Pour la ramener dans le seul endroit où elle serait entreposée en toute sûreté, car désormais elle ne contenait pas seulement un ami endormi, mais aussi des terreurs que des époques futures pourraient vouloir un jour exorciser.